poursuivre le thème des vérités fondamentales et nous allons voir ensemble ce soir, ou tout du moins une première partie concernant la Trinité. Rien que déjà le mot de départ peut être un mot barbare. Ou plus exactement, si on veut être plus juste, ça serait plus exactement la tri-unité, pour être un peu plus juste. Je vous donne la définition que vous avez, encore une fois, je vous ai dit qu'on suivait les vérités fondamentales que nous trouvons par exemple sur le Pentecôte ou différents autres livres. Et sur la diapo suivante, nous avons la définition de notre croyance. Encore une fois, voilà. L'unité du seul Dieu, vrai et vivant, qui est éternellement existant par lui-même. Je suis qui s'est révélé comme étant un en trois personnes. Voilà ce que nous allons essayer de partager ensemble. Je vais essayer de ne pas être trop long et assez dynamique parce que c'est le soir, il y en a qui ont sommeil, ils sont fatigués peut-être, et on va essayer de ne pas s'endormir. J'aimerais faire quelques lectures avant pour introduire cette pensée. Nous allons, comme à l'habitude, bien utiliser les diapos parce que il y aura beaucoup de textes bibliques concernant ces pensées-là. Ce sont, je le répète, des études bibliques. Donc il y a davantage de textes, je m'appuie davantage. C'est différent qu'un message d'exhortation ou qu'un message d'enseignement. Mais nous allons voir ensemble donc un certain nombre de choses. Exode d'abord, chapitre 3, verset 14. Vous pouvez soit le noter, soit suivre aussi dans vos Bibles si vous le désirez. Et il est dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur en français, mais on va essayer de comprendre ça. Hein. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Jésus répond également dans Marc 12, 29. Voici le premier des commandements. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et également Jean chapitre 8 verset 58 nous dit, Jésus leur dit en vérité je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ça c'est encore un autre problème. Déjà à l'époque ça leur avait causé beaucoup de soucis et on va voir un petit peu ce que cela correspond pour nous. J'aimerais tout d'abord en introduction dire que c'est bien succinctement que nous allons traiter ce sujet aussi intéressable que l'être divin dont nous allons parler, Dieu. Comment épuiser un tel sujet? Je crois que c'est un sujet qui est inépuisable, d'abord parce que Dieu est éternel, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, immuable, immortel, incorruptible, bref, on peut rajouter un certain nombre d'adjectifs. Et ce que, je dirais, nous allons dire sur Dieu est infime à côté de la réalité. J'aimerais commencer par la définition du dictionnaire. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe dans le dictionnaire, même dans un domaine spirituel. La définition nous dit ceci. Dieu, c'est un nom masculin. Jusque-là, ça va. Entité ou être supérieur, surnaturel, créateur, maître de l'univers et des destinées humaines. Généralement objet d'un culte religieux. Voilà ce que le dictionnaire nous dit sur Dieu. Quand on prend la Bible, elle nous en dit un tout petit peu plus. Et nous allons nous arrêter quelques instants. Sur la Trinité, on va commencer par le début. On va s'arrêter dans un premier temps sur Dieu, car il est important de définir cette divinité pour bien comprendre ensuite le fonctionnement. Premièrement, nous l'avons vu dans différents textes, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu par religion, quel que soit d'ailleurs le nom qu'on puisse lui donner. Paul va dire à Timothée, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que tous les autres dieux sont des dieux qui sont irréel, imaginaire, des inventions d'hommes. Mais il n'existe pas. D'abord, Paul va dire aux Corinthiens la chose suivante. Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, néanmoins, il est dit un peu plus loin, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia. Les choses avec l'apôtre sont très claires. C'est vrai que les religions disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'entendais encore à la radio, il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui même, quelqu'un qui disait ceci, mais je comprends pas. Toutes les religions se mettent d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et elles sont toutes en train de se taper les unes sur les autres. Et on peut encore prendre d'hier à aujourd'hui les exemples qu'il y a dans notre monde comme guerre de religion, que ce soit catholique, protestant, bouddhisme, islamique ou autre. Toutes n'y échappent absolument pas. Éphésiens chapitre 4 verset 5 nous dit ceci. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Alléluia. Je m'empresse de faire juste une petite remarque pour dire que s'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, les adeptes de ceux qui sont contre le baptême dans le Saint-Esprit disent, vous voyez bien que le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit n'existent pas, puisque la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, faisant donc référence uniquement au baptême d'eau. On peut toujours tordre l'écriture dans tous les sens, mais il est fait effectivement référence ici au baptême d'eau. Et le baptême d'eau, il n'y en a qu'un. D'ailleurs, l'apôtre reprendra dans un autre texte où il parlera du baptême pour les morts. Mais ça n'a rien à voir. Et il expliquera pourquoi il croit à, non pas à ce baptême pour les morts, mais pourquoi il a pris cet exemple-là. Et effectivement, il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême par immersion, qui est l'engagement d'une bonne conscience. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est Père pour chacun d'entre nous. Ésaïe, également, au chapitre 45, va confirmer cela. Et il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Voilà qui est clair. Hein? À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est effectivement très claire, est très simple. Et si je crois que c'est important de connaître au moins quelques versets concernant l'unité de Dieu et concernant son éternité, parce que c'est bon de pouvoir aussi apporter à des inconvertis, des personnes, des hommes, des femmes qui ne connaissent pas les choses sur Dieu, de leur dire mais Dieu lui-même proclame qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre divinité. L'apôtre va parler d'autres divinités que les hommes se sont faites, et on va aller un petit peu plus loin dans le psaume 115 justement, au verset premier. Il y a deux pages sur celui-ci. Il est dit ceci, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, et elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas, elles ne produisent aucun son dans leur gosier, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Alléluia. Cela nous fait simplement comprendre que des hommes, des femmes ont donc essayé de créer d'autres dieux, d'autres divinités. Mais concrètement et réellement, comme Dieu le dit ici, elles ne sont qu'une manifestation d'hommes. Ce qui existe véritablement, c'est un seul Dieu et un seul Seigneur. D'ailleurs, le psalmiste ici va comparer Dieu aux idoles, et en conclusion, la conclusion est simple, un seul et unique Dieu, et nul n'est semblable à lui. Deuxièmement, Dieu est éternel. Il se présente, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, au présent. Exode 3,14, nous l'avons lu, dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, dira Moïse un petit peu plus tard dans ce verset. ou en tout cas c'est ce qu'il devra proclamer. Dieu était, il est et il sera toujours. Son nom est Je suis. Il est Je suis. Il n'a ni commencement ni fin de vie. Le psalmiste dira ceci: tu existes de toute éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il ne peut pas avoir de mère. Marie, et c'est une abomination que de réduire le Créateur à avoir eu besoin d'être engendré. C'est une abomination, c'est une infamie. Dieu n'a pas besoin de mère. Marie, nous le savons, demeure simplement la mère de Jésus. Mais elle n'est en aucun cas la mère de Dieu. Alors le contournement de l'Église catholique est simple quand elle dit: mais comme Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. Pas du tout. Puisque en étudiant la triunité ou la trinité, c'est-à-dire un Dieu en trois personnes, nous allons voir que Dieu est véritablement une personne à part entière, que Jésus en tant qu'être est véritablement aussi une personne à part entière, et que le Saint-Esprit en tant qu'être également est aussi une personne à part entière. Et que si Marie a donné vie à Christ, elle n'a en aucun cas donné vie à Dieu, puisque c'est Dieu qui a produit la vie en elle. Donc on n'inverse pas les valeurs et on n'inverse pas le miracle de celui qui l'a produit. Troisièmement, on va s'arrêter sur trois mots que l'on prononce parfois et qui sont assez compliquants. Compliquants. Oula, compliqué. C'est moi qui vais aller me coucher, ça continue. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Alors, omniscient, ça veut dire quoi? Le dictionnaire nous dit ceci: c'est la connaissance ou la science infinie, totale, de toute chose. C'est l'omniscience. C'est-à-dire que Dieu connaît absolument tout. On pourrait se poser la question de savoir comment n'y aurait-il pas à l'origine de tout, justement, une intelligence. Comment les scientifiques arrivent à nous faire croire et comprendre que tout s'est fait comme cela. Que par le fait du hasard, un bing et un bang ont fait que aujourd'hui, vous et moi soyons intérieurement en tant qu'individus et êtres structurés tels qu'on est structurés, au point même où les médecins n'ont pas encore découvert complètement toutes les facultés, les qualités, les capacités de l'être humain. C'est le fait du hasard. Ça me fait penser un petit peu à comment ça s'appelle aux États-Unis, ces quatre statues qu'il y a là, dans comment dirais-je, sculptées dans le roc là, les quatre personnages qu'il y a là, c'est des présidents. C'est comment ça s'appelle l'ensemble là? Vous êtes intelligent, vous devez le savoir vous ça. Hein? Oui, je me souviens plus. Bref, vous voyez de quoi je veux parler là. Hein? Il y a un scientifique créationniste qui un jour a pris cela. Il a pris donc une photo de ces quatre statues qui sont parfaitement bien sculptées d'une manière formidable, etc. Et il a dit, l'œuvre de l'évolution, en tout cas ceux qui maintiennent l'œuvre de l'évolution, c'est ça. Il a pris la photo d'une montagne. Et puis au fur et à mesure des temps, petit à petit, les montagnes se sont dégradées au point où elles ont donné cette sculpture parfaite de ces quatre bonhommes. Il dit, voilà l'évolution, c'est ça. Je crois qu'il nous faut être logique dans le fonctionnement et on peut facilement quand même penser que si notre monde fonctionne avec une telle précision dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine atmosphérique, terrestre ou autre, on se rend compte que tout est fait avec une perfection extraordinaire. Quelqu'un a dit un jour que pour faire une horloge, il fallait un horloger, certainement que pour créer le monde, il fallait le Créateur. Et le Créateur est à la base de cela. Donc il est dit ici, dans ce texte-là et dans d'autres textes que nous avons lus, que Dieu donc est omniscient. On va voir cela. C'est-à-dire que son intelligence n'a aucune fin, contrairement à moi par exemple. Lui, ça ne se finit pas. Son intelligence est infinie. Dans le psaume 147, au verset 5, il est dit ceci: « Notre Seigneur est grand Il est puissant par sa force et son intelligence n'a pas de limite. Littéralement, ça veut dire ceci. Sa compréhension n'a pas de nombre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça définit comme conception. On ne peut pas mesurer l'intelligence de Dieu. On ne peut pas la graduer. Il n'y a pas de nombre pour définir combien Dieu est intelligent. L'être humain comprend et réalise, je dirais, ce qui l'entoure. De quelle manière ? Par les données qu'il possède, en les mesurant aux limites qu'il connaît. Et c'est ça qui nous donne des valeurs. On a changé de monnaie il n'y a pas longtemps, vous savez ce que vaut un euro. On a une marge, on a une valeur. On a du mal des fois à faire encore... Mais on a une limite qui est là. Mais Dieu, lui, n'a aucune limite. Ni même dans son intelligence. Rien ne peut le freiner. On pourrait dire quels arguments apportent certains pour soutenir, j'en parlais tout à l'heure, la théorie de l'évolution. Ils disent par exemple que nous progressons aujourd'hui en connaissance, que nous sommes nettement plus intelligents que ceux qui nous ont précédés. Mais sincèrement, je crois que c'est faux. Ils donnent pour exemple qu'aujourd'hui on est capable d'utiliser des ordinateurs, on est capable de faire partir des fusées dans le ciel, on est capable de mettre des satellites, etc. etc. Mais ce n'est pas une question d'intelligence. Et je crois qu'il nous faut comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Nous savons tout simplement mieux aujourd'hui, grâce justement à des ordinateurs, nous savons mieux gérer un plus grand nombre d'informations et plus rapidement qu'avant. Et ça, c'est une grande différence. Nos prédécesseurs étaient, je pense, bien plus intelligents que nous quand nous voyons ce qu'ils ont pu réaliser avec des moyens nettement inférieurs aux nôtres aujourd'hui. Donc leur intelligence était certainement bien plus décuplée. D'autre part, l'intelligence n'est pas arrivée progressivement, comme on veut nous le faire croire encore aujourd'hui, où petit à petit on dit que d'un singe on s'est transformé, et puis on est devenu plus ou moins intelligent. Avant on se tapait dessus avec des haches de pierre, et puis après on a compris qu'on pouvait tuer des animaux, casser des arbres, faire du feu, manger, etc. C'est stupide. Dès la création, Dieu a communiqué l'intelligence. D'ailleurs, prenez le premier homme de la création. Quand Dieu lui a présenté les animaux, il a été capable de donner un nom à chacun. Ben, chapeau, hein. Il a identifié chaque animal qui était là et il a défini, il a donné un nom. L'omniscience de Dieu. Le fait qu'il connaît toutes choses. La Bible nous dit que son omniscience fait qu'il connaît tous les hommes. Il n'y en a pas un qu'il ne connaît pas. Dans le psaume 33, au chapitre 13 et au verset 15, il est dit ceci. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tout, qui est attentif à toute leur actions. J'aime ce texte parce qu'il me rappelle que Dieu est toujours là. Des fois, je l'aime pas ce texte. Quand ça va pas, quand on est un peu isolé, quand on passe par la difficulté, on aime se rappeler ça parce qu'on dit « Ah, c'est formidable Seigneur, tu es là, tu regardes du haut des cieux et tu me vois, moi. » Petit individu qui suis là, tu me vois, du lieu de ta demeure, t'es là, tu me vois, t'observes tous les habitants. Et puis c'est vrai, il y a d'autres moments, s'il pouvait détourner le regard, ça nous arrangerait. Hein. S'il pouvait regarder un autre et pas nous en même temps, ça serait plus facile. Hein. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Et ça c'est quelque chose d'extraordinairement merveilleux. Dieu a créé l'homme libre. Et la Bible nous dit... Il l'a créé dans cette liberté même à sa propre image. Dieu est omniscient dans la connaissance scientifique, dans la connaissance de l'infini, comme dans la connaissance de l'homme quant à ce qui est de plus terre à terre. Notre vie de chaque jour, il la connaît. Et il est là et il veille sur nos vies. Quatrièmement, Dieu est omnipotent. Alors pourquoi disons-nous cela ? L'omnipotence, c'est quoi ? C'est le pouvoir absolu. Être tout puissant, on l'a chanté tout à l'heure, El Shaddai. L'Éternel, c'est El Shaddai, le Dieu tout puissant. Dans Genèse au chapitre 17, nous avons ce texte. L'Éternel apparut à Abraham, ou Abraham, et lui dit, je suis le Dieu tout puissant. Dieu lui-même se révèle en disant, je suis le Dieu tout puissant. C'est l'identification que Dieu donne de lui-même. Il se place au-dessus de tout. Il dit, je peux tout, au-delà de tout ce que nous pouvons même penser ou même espérer. L'omnipotence comprend même, et c'est ça qui est assez extraordinaire de la part de Dieu, et ça on a du mal nous parfois à le comprendre. Parce que quand on définit omnipotent, un Dieu tout puissant, très souvent, par cette puissance, on se met dans la position de ces deux disciples qui un jour, parce que ceux qu'ils ont rencontrés n'ont pas répondu tel que le Seigneur pensait qu'ils allaient répondre, on dit, mais on peut te régler ça rapidement, on va prier et le feu va descendre du ciel, ça va les consommer et on a réglé l'affaire. Et quand on définit la toute-puissance de Dieu, même nous qui sommes croyants, combien de fois n'avons-nous pas dit, mais Seigneur, mais t'es tout-puissant, mais tu pourrais lui le petit coup d'étincelle là et paf, la situation est réglée. Ou ce problème, ou cette difficulté. Et c'est dans notre conception, cela. Mais l'omnipotence comprend le pouvoir même de la part de Dieu de se limiter délibérément. Lui-même. Jusqu'à, même je dirais, un certain point, lorsque par exemple, Dieu va donner à ses créatures rationnelles, nous, d'être leur libre arbitre. Et d'être entièrement responsables de nous-mêmes. On pourrait dire, mais Dieu est tout puissant, il ne pourrait pas nous empêcher, par exemple, de pécher, de faire des fautes, des erreurs, de nous tromper. Il pourrait nous garder lui-même toujours dans la bonne voie. Non, il est tout puissant. Il pourrait faire de cela, mais à ce moment-là, il ne nous aurait pas appelés humains, il nous aurait appelés robots. C'est pas tout à fait pareil. Et là, dans la liberté qu'il nous donne, même s'il est tout puissant, il nous laisse libres, libres d'accepter le bien comme d'accepter le mal, de marcher dans ses voies ou de ne pas vouloir y marcher. Par exemple, aussi, lorsque il permet justement au péché de pénétrer non simplement parfois dans nos vies, mais dans l'univers, et de faire ce qui se passe aujourd'hui. Il y a bien des choses qui nous dépassent. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan d'agir de la sorte? Ça nous dépasse. On a du mal à comprendre. Mais Dieu a ses raisons. Et on comprendra plus tard pourquoi il a agi de la sorte. Exemple aussi, lorsque il renonce à intervenir dans une situation pour sauver, je dirais, de force, et qui laisse les choses se passer d'une certaine manière, pour que nous comprenions, pour que notre intelligence justement se décuple, ou pour que nous devenions véritablement des hommes et des femmes qui puissions connaître véritablement comment combattre dans la prière, dans l'intercession ou autre. Ou encore un exemple, lorsqu'il respecte lui-même les lois qu'il a lui-même inscrites dans la création. Je crois que c'est pourquoi il agit fréquemment à travers le monde et à travers nos vies, et on le voit souvent, il agit souvent par des moyens ordinaires. Le Dieu extraordinaire agit par des moyens tout à fait ordinaires. Et c'est ça qui est extraordinaire. Regardez par exemple dans la guérison naturelle d'une maladie, alors qu'il pourrait démontrer sa puissance comme il le fait parfois, et il laisse l'action bien souvent naturelle se faire également. Le Tout-Puissant, puisqu'il détient, la Bible nous dit, la vie. Et dans Exode, il est dit ceci, si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Il est question ici de Pharaon et de l'Égypte, et c'est vrai que Dieu a la vie entre ses mains. Cinquièmement, Dieu est omniprésent. Alors on a vu l'omniscience, c'est la connaissance de toutes choses. On a vu l'omnipotence, c'est le pouvoir absolu. Cinquièmement, il est omniprésent. L'omniprésence, eh bien, c'est la présence de Dieu en tout lieu. C'est-à-dire qu'il est présent en tout lieu, mais en même temps, à la fois. Et ça, ça nous dépasse. Parce que nous, ça nous est difficile. Maintenant, virtuellement, on y arrive. grâce aux ordinateurs extraordinaires, on arrive à être à différents endroits en même temps. En fait, on n'arrive qu'à être à un seul endroit, puisque physiquement, on est toujours à un même endroit. Mais l'image peut se déplacer. Ça, c'est la tactique satanique, qui voudrait être comme Dieu. J'aimerais vous dire que Satan n'est pas comme Dieu. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. Job le prouve quand Dieu va interroger Satan et qu'il lui dit « Mais Satan, où étais-tu ?» Et Satan lui dit « Mais j'ai parcouru la terre et me voilà aujourd'hui, maintenant je suis devant toi. » Dieu est, lui, omniprésent. Il peut être partout en même temps. Deutéronome chapitre 4, verset 39. « L'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. » Nous trouvons dans la même pensée Dieu à travers la vie et la mort également. Regardez le psalmiste ce qu'il dit dans le psaume 139 au verset 7. « Ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, ça il veut faire un bon essai là, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » C'est un petit peu ici l'exemple de quelqu'un qui a envie de fuir là. Il a envie de fuir Dieu parce que sa situation spirituelle ne va plus. Et là le psalmiste est en train de dire « Mais je vais partir, je veux m'éloigner de toi. » Le seul problème c'est qu'il ne veut pas s'éloigner de Dieu. Et souvent on a des gens comme ça qui, parce qu'ils ont un certain nombre de difficultés dans leur vie, ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Et parfois même ils veulent fuir. Alors des fois ils font même des grands voyages, ils partent très loin, ils vont sur des îles désertes. Mais partout où ils pourront aller, Dieu y est également. Il est présent. Même s'ils veulent partir à l'extrémité de la mer, prendre les ailes de l'aurore, je crois que là aussi la présence de Dieu. Dieu se trouve dans ces lieux, même qui renferment encore pour nous un certain nombre de mystères. C'est quelque part la preuve de la vie et de la mort également, et de la vie après la mort. Il le dit ici. Il est présent dans le paradis céleste et il est présent également dans le séjour des morts. Dieu connaît ces choses, Dieu est présent partout. Et personne ne peut être caché aux yeux de Dieu. Et Jérémie 23, au verset 24, nous dit ceci, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Il nous voit. N'importe où, où nous nous trouvons. Toutes nos actions, nos faits, nos gestes, tout est dévoilé aux yeux de Dieu. Il nous connaît parfaitement. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment merveilleux de savoir que ce Dieu-là a ses qualités. C'est donc la grande différence qu'il y a entre Dieu et également Satan et les démons. Comment Satan fait-il donc pour pouvoir connaître les choses? Eh bien, tout simplement, il y a un partage, je dirais, une communication qui se fait. Je vais reprendre le fil. Il y a une communication qui se fait entre Satan et les démons, et ils se mettent au courant, tout simplement. Il y a quelque chose qui se met en place. Et à travers cela, donc, la communication passe. Il ne peut pas être. C'est pour ça qu'il nous faut être très prudent, même quand on utilise des mots comme possession ou autre. Certaines personnes disent qu'il est possédé de Satan, etc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Disons que c'est très rare être possédé de Satan lui-même. Ce sont des cas très très rares et extrêmement rares, puisque Satan n'est pas omniprésent. Par contre, être possédé, dans certains cas, pour des gens qui auraient touché à toutes sortes de spiritisme, astrologie ou n'importe quoi d'autre dans la divination, la voyance, et qui soient possédés d'esprits impurs ou d'esprits mauvais, ça c'est autre chose. Parce que des démons, il y en a plusieurs, et quand on regarde le nombre que la Bible nous parle, eh bien il y en a une certaine quantité quand même. Mais la différence est importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on met une égalité entre le bien et le mal. On dit il y a une force qui s'oppose, et là il y a le bien, là il y a le mal, là il y a Dieu et là il y a Satan. Mais c'est faux. Parce que là il y a Dieu et là il y a Satan. Parce que Dieu demeure toujours le Créateur. Et Satan veut être l'égal de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été projeté sur la terre. Mais il ne sera jamais et il n'est pas l'égal de Dieu. Parce que lui, Satan, et il le sait, demeurera de toute manière toujours un être créé. Alors que Dieu, lui, n'a jamais été créé. Il est et il demeurera le Créateur. Et c'est pour cela que Satan cherche à imiter Dieu, il cherche à devenir l'antichrist, comme il est appelé, pour prendre la place du Christ, et il cherche à ce que son esprit, de mensonge, se manifeste sur la terre, pour justement prendre la place du Saint-Esprit. Et il va essayer d'imiter, de tromper, de tricher, pour remplacer Dieu. Mais il ne peut y avoir aucun parallèle et aucune égalité entre Satan et Dieu. Dieu demeure le Créateur et Satan demeure la créature. Ça ne veut pas dire qu'il est démuni de puissance par rapport à nous. Pas par rapport à Dieu, par rapport à nous. Mais jamais il ne pourra renverser Dieu et la parole qui est écrite qui nous dit que Satan sera détruit et que Satan sera jeté au plus profond des abîmes avec tous les anges déchus, avec également les démons et tous les menteurs, les blasphémateurs, etc. C'est une parole, et ils le savent, qui va s'accomplir. Sixièmement, j'aimerais m'arrêter quelques instants maintenant, avant de terminer, sur la forme de Dieu. Quelle est la forme de Dieu ?
Ça, c'est une bonne question, hein.
Souvent on dit, mais moi j'ai rencontré Dieu. Ah ouais? Et où ça? Il était comment? Tu l'as vu? Et quelle tête il avait? Comment il s'est présenté à toi? Et c'est vrai qu'on a souvent un jargon, un langage qui n'est pas toujours évident pour ceux qui nous entendent. L'apôtre Jean va nous dire ceci. Chapitre 4, verset 24. Dieu est d'esprit. C'est un peu léger, hein? Mais déjà on va s'arrêter sur le terme esprit. Qu'est-ce qu'un esprit? Alors Jésus a réutilisé ce terme. Et il dit ceci dans Luc au chapitre 24, il nous dit cela. « Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, dit Jésus. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Donc il va nous aider un peu plus sur la notion de l'esprit. Un esprit, c'est donc, d'après Jésus ici, un être incorporel, un être qui n'a pas de corps, c'est une réalité invisible. Dire que Dieu est esprit, c'est dire tout simplement que Dieu est donc incorporel et invisible. Dans le Deutéronome, au chapitre 4, au verset 15, voilà ce qui nous est dit. « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, d'une femme, etc., d'un animal. » Après, il y a toute une suite qui nous est précisée. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de bande magnétique, vidéo, de CD, de DVD. Il n'y a rien qui nous permet de savoir à quoi Dieu ressemble, je précise, exactement. Mais là, vous allez me dire, qu'est-ce que veut dire Genèse 1:27 ? Dieu créa l'homme à son image. Il y en a, ils rigolent déjà, mais... On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Et Dieu a créé l'homme à notre image. Donc, ça veut dire quoi? La réponse se trouve dans les versets que nous allons voir maintenant. Colossiens chapitre 3, verset 10. Vous avez revêtu, écoutez bien, l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, écoutez, selon l'image de celui qui l'a créé. Il est question de quoi ici? Il est question d'un homme nouveau il est question de connaissance. D'accord ? Verset suivant. Vous avez appris à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le mot image ou le mot ressemblance ne se rapporte évidemment pas à une ressemblance visible ou corporelle, mais c'est à une ressemblance intellectuelle et morale de Dieu. Et c'est tout différent. C'est à une ressemblance, je dirais, en connaissance, en justice, en sainteté, nous l'avons lu, et en vérité. C'est cela l'identification avec Dieu. C'est cela l'image de Dieu. Nous n'avons pas été créés à son image physique, même si peut-être physiquement Dieu nous ressemblerait, ou plutôt on lui ressemblerait. Mais personne n'a jamais vu Dieu, et on va aller un peu plus loin dans différents textes. Mais il est question tout simplement ici, on revient sur les textes d'avant, on remonte un peu, encore, voilà. Il est question de ce que Dieu a créé en nous et de ce que nous avons revêtu, donc cet homme nouveau. Et là, nous avons donc été créés selon Dieu dans la justice, la sainteté, la vérité, etc., etc. Dieu est esprit. Les anges sont esprits aussi. Et le diable est un esprit également. Mais l'homme ne peut les voir. C'est ce que nous dit Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Ce qui est esprit peut bien évidemment se manifester sous une forme visible et matérialisé. Dans Jean au chapitre 1er, verset 32, Jean rend ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Est-ce que l'Esprit est une colombe? Non. Jean a vu l'Esprit descendre comme une colombe. On peut aller plus loin. Est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit, ce sont des langues de feu? Non. Acte 2 nous dit que l'Esprit est descendu et c'était semblable à des langues de feu. Quand il est question du Saint-Esprit et qu'il est question du vent, est-ce que le Saint-Esprit est le vent? Est-ce que le Saint-Esprit est le souffle? Est-ce que le Saint-Esprit est un torrent qui jaillit? Non. Il est parfois semblable à un vent, à un torrent, à une colombe, à différentes choses. Il y a une matérialisation, et je préfère utiliser la matérialisation de l'Esprit de Dieu, sachant que les esprits mauvais peuvent se matérialiser aussi. Raison pour laquelle des gens sont parfois oppressés, tourmentés ou possédés, puisque c'est une des manières dont les esprits vont pouvoir justement se matérialiser et pouvoir agir ou réagir. Ici, dans ce que dit l'apôtre Jean, ce sont tout simplement des manifestations divines, mais ce n'est pas l'apparition de Dieu dans, écoutez bien, toute sa plénitude. Quand, par exemple, dans l'Ancien Testament, nous avons des hommes comme Abraham, qui ont vu le chef de l'armée de l'Éternel, et quand il se présente ces trois hommes sous les chaînes de Mamré, on pourrait tout à fait facilement identifier Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Abraham a vu, effectivement, avec ses yeux, des hommes, et on va prendre d'autres versets, où il pourrait sembler qu'il y aurait une contradiction, mais nous allons voir des choses que finalement, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune contradiction. Il a vu des hommes, mais il n'a vu qu'une apparition de Dieu, mais il n'a pas vu Dieu tel qu'il est véritablement. Exode chapitre 33, je ne sais pas s'il est là, verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Donc voilà la raison pour laquelle personne ne peut voir Dieu, même pas ceux de l'Ancien Testament. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Et ils n'ont pas pu voir Dieu. Par contre, ils ont vécu d'autres choses. Pour se révéler, nous le savons quand nous lisons certains textes, Dieu a pris des formes humaines pour parler à des hommes et se faire comprendre. Je viens de parler d'Abraham, on a l'exemple de Moïse aussi. Mais d'autres hommes ont eu des visions, ils ont vu certaines choses comme Samuel, Nathan, vous avez Éliphaz, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, Nebuchadnezzar, même Paul. Ils ont vu un certain nombre de choses. Alors, y a-t-il des contradictions? Avec par exemple ce texte qui nous dit ceci. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, vous connaissez ce texte, et 70 anciens d'Israël, il y avait du monde là. Ils ont mangé avec Dieu, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté, etc., etc. Un autre texte, Ésaïe chapitre 6, verset 1er, ça vous le connaissez très bien ce texte, l'année de la mort du roi Ozias, « Je vis le Seigneur, dit Ésaïe, assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » On connaît bien ce texte, hein, ça a été même chanté, etc. Alors, y a-t-il une contradiction entre ces deux textes? Et puis les deux suivants, Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Alors ça, c'est quand même fort, hein. Et puis le suivant, l'homme ne peut me voir et vivre. Mais la réponse, tout simplement, est non. Il n'y a aucune contradiction entre ces textes-là et d'autres. Pourquoi? Lorsque vous vous regardez dans un miroir, j'en ai parlé dimanche dernier, qu'est-ce que vous voyez? Vous pourriez dire, mais je vois mon visage. Mais en réalité, votre visage, tel qu'il est, vous ne l'avez jamais vu. Ou alors il faudrait des yeux extensibles. Comprenez ce que je veux dire? Votre visage, tel qu'il est, vous ne l'avez jamais vu. Vous n'avez vu que le reflet de votre visage, dans un miroir. Mais vous n'avez jamais vu réellement que moi je peux voir votre visage. Comprenez? Avec Dieu, ici, c'est exactement la même chose. Et encore, le reflet que nous avons, qui plus est, il est inversé. Puisqu'on se voit face à face. De la même manière, ces hommes que j'ai cités tout à l'heure et les versets qui nous ont précédés, c'est exactement la même chose. Ils n'ont vu que des reflets de la gloire de Dieu. Ils n'ont vu que des manifestations. Je crois que le mot savant, c'est la théophanie. Voilà, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. La théophanie, c'est voir le reflet de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu ou de la manifestation de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Il est vrai qu'ils ont vu une forme ou une certaine manière de voir Dieu, mais jamais personne n'a à ce jour vu Dieu tel qu'il est, si ce n'est le Fils. C'est-à-dire voir Dieu dans son essence même, c'est-à-dire dans son essence invisible, tel qu'il est, de sorte qu'il est parfaitement vrai de dire qu'aucun homme, donc, n'a jamais vu Dieu. Je conclus, on se rend compte que Dieu n'a pas de limite. Il n'a aucune limite de forme, il n'a une forme qui n'est donc pas définie, il est esprit, il est tout, il est le tout-puissant, il a une intelligence et qui n'a aucune fin, que nous avons même de la peine nous-mêmes à concevoir. Alors, qu'est-ce qui nous amène à accepter un tel Dieu? Qu'est-ce qui nous amène à croire à un tel Dieu? Ne tombons pas, nous aussi, dans certaines supercheries religieuses, quelles qu'elles soient, où justement, pour croire en un Dieu tel que celui-ci, tel que nous l'avons défini, alors on va être obligé de le matérialiser. Et c'est ce qu'ont fait certaines religions, à travers des objets, à travers des icônes, à travers des médaillons, à travers des crucifix, à travers des livres, à travers un certain nombre de choses. Ils ont essayé de matérialiser Dieu. Pourquoi ? Ben parce que pour nous, c'est abstrait. Dire que Dieu est esprit, qu'il n'a pas de forme, mais qu'on peut le rencontrer, ça paraît bizarre. Alors, lui dire, mais tiens, en fait, ton Dieu, voilà, il est là, tu vois, il ressemble un peu à ce bout de papier, voilà, ça c'est Dieu. Alors les gens, ils le prennent dans la poche, et puis, il faut surtout pas le toucher, c'est Dieu. Mais on a plus de croyance dans le bout de papier qu'en ce qu'il doit représenter véritablement. Et finalement, ça nous amène dans quelque chose qui est foncièrement erroné et qui s'appelle de la superstition. Or, la seule chose qui peut nous amener à accepter un Dieu tel que nous l'avons décrit ce soir, c'est la foi. Il n'y a rien d'autre que la foi. Et je dois vous avouer que personnellement, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais j'y crois, parce que c'est la Bible qui me le dit. Et même si je ne comprends pas, je veux croire quand même. Parce que mon intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. Je sais qu'elle est limitée alors que lui est illimité. Mais que demain, quand je me trouverai dans sa présence, là je comprendrai. Parce que nous serons connus tels qu'il nous a connus. Alléluia. Donc nous aurons cette intelligence décuplée pour comprendre toutes les choses qui nous sont incompréhensibles aujourd'hui. Et c'est donc la foi. Cette foi qui est indispensable, qu'il nous faut, parce que c'est cette foi qui va nous permettre d'admettre Dieu et de le comprendre. Alléluia. Dimanche, nous nous arrêterons simplement sur ce texte concernant la Trinité. Nous irons un peu plus loin. Et maintenant que nous avons vu Dieu, nous verrons dans le programme qui va suivre la Trinité en tant que telle. Et dimanche matin, nous allons aborder ce thème. Pourquoi nous disons que Dieu est une seule identité en trois personnes différentes? Et nous allons voir ensemble que de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien, cette triunité existe continuellement. Et puis, pour prouver que cette triunité forme bien Dieu, il nous faut alors prouver que, un, Dieu est divin. Ça, on n'aura pas beaucoup de mal déjà dans ce que nous avons vu ce soir. Cela nous prouve qu'il est divin dans sa nature et son essence. Mais il nous faut prouver également que Jésus-Christ est divin, ce qui est excessivement combattu aujourd'hui par nos grands théologiens. Alors, nous, petits comme on est, on va essayer quand même de leur faire comprendre, et au moins pour nous, de comprendre que Christ est de nature divine, et que ça, rien ne pourra ni changer. Et troisièmement, de définir aussi que le Saint-Esprit est aussi de nature divine. Parce que si nous n'avions pas de texte qui définisse que le Saint-Esprit ou Jésus était de nature divine, alors tout s'effondrerait. Et on n'aurait plus de triunité, on n'aurait plus ce Dieu en trois personnes, parce que les trois, bien sûr, doivent être divins. Mais la parole est là, et c'est pour ça qu'il est important de la lire, de la méditer, comme je disais dimanche, de l'étudier, de l'approfondir, pour chercher pleinement qu'est-ce qu'elle peut nous faire comprendre, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, et de nous amener dans cette réalité. Amen. On prie ensemble le Seigneur.